Donc, bonsoir à tous en ce lundi d'Action de grâce. J'espère que vous avez eu une bonne journée de congé pour récupérer en surplus, mis à part la fin de semaine. Je comprends qu'il n'y a probablement pas eu beaucoup de réunions familiales pour avoir du temps ensemble. Peut-être un peu de façon virtuelle, mais j'espère que vous n'avez pas mangé une dinde virtuelle. J'espère que vous avez vraiment mangé. Nous, on va reprendre ce soir notre cours sur le livre de l'Apocalypse. Nous sommes rendus au chapitre 19. Nous allons d'abord remettre ce temps entre les mains à celui à qui appartient le temps, le Seigneur Jésus. On va lui remettre ce qu'on va regarder entre ses mains, demandant sa miséricorde sur vous comme sur moi. Seigneur, miséricorde, oui, ô Dieu. Miséricorde, Seigneur, sur nous qui regardons ta parole, qui étudions ta parole, qui cherchons dans ta parole direction pour nos vies et qui regardons, Seigneur, aussi les tenants et les aboutissants, Seigneur, à la fin des temps de cette parole, ô Dieu. Parce que ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Elle va s'accomplir. C'est à nous, Seigneur, d'aller tirer les enseignements nécessaires pour nos vies personnelles, pour aussi les temps à venir. Et en cela, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes, Seigneur, tout ce qui est nécessaire à une saine compréhension des Écritures. Pas l'un de nous est parfait. Pas l'un de nous, Seigneur, a la connaissance, la science infuse. Mais toi, Seigneur, tu peux nous donner au-delà, Seigneur, de cette connaissance, Seigneur, qui est humaine. Tu peux nous amener, Seigneur, à comprendre plus profondément, Seigneur, ta parole. Ainsi, Seigneur, est ma prière. Amène-nous, Seigneur, en toute sagesse, en toute intelligence, Seigneur, à regarder ta parole comme il se doit, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis, soyez les bienvenus. On est rendu à plusieurs semaines qu'on étudie le livre de l'Apocalypse et comme d'habitude, je vous ramène un peu pour vous retremper dans le bain, pour vous ramener un peu à l'étude suivie qu'on fait. Donc, la semaine dernière, je vous ramène un peu à la semaine dernière et à quelques semaines même derrière, on a étudié le chapitre 17 et le chapitre 18 qui étaient des chapitres intimement liés qui nous montraient le système qui allait se mettre en place. La montée du système et aussi l'apogée et la chute du système. Et à partir du chapitre 19, on va voir la fin, les derniers moments de ce système-là par l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Donc, dans les chapitres 18 qu'on a vu la semaine dernière, on a vu le système antéchrist, c'est-à-dire de sa montée à son effondrement, si vous voulez, le système étant une ville, le système étant un système religieux, un système économique et un système politique. Et son effondrement, on l'a vu arriver de façon comme telle, une confédération de 10 rois qui vont avoir été trompés par la Babylone ou par le système ou la ville qui, dans laquelle le système va se loger un peu comme une capitale du système. On va voir ces 10 rois-là, cette confédération-là, jeter par terre le système religieux, comme le tout va être interrelié. Le système économique va vaciller sous les coups. Et après l'effondrement du système économique, naturellement, le système politique mis en place par l'Antéchrist va subir les assauts d'un ensemble de facteurs et va trouver son effondrement final dans le retour de Jésus, dans le retour de Christ. Comme je disais à un moment donné à des personnes avec qui je parlais, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, le retour de Jésus va se faire de toute façon. Le retour du Seigneur n'est pas une question si on y croit ou pas. Soyons bien clairs, le retour de Jésus, nous y croyons, nous, par la foi, mais un jour, les gens vont le voir par la vue. Et un jour, même dans le millénium, et on va voir ces choses-là plus tard, probablement que ces choses-là vont être enseignées comme de l'histoire, comme d'autres choses, d'autres prophéties dans la Bible, avant qu'ils deviennent histoire, étaient prophéties, étaient enseignées de façon prophétique dans les écoles des prophètes et ainsi de suite. Nous le voyons, nous le regardons aujourd'hui comme des faits tout à fait historiques. Il n'y a plus rien de prophétique dans certains pans de la prophétie qui étaient surtout de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament, si vous voulez. Donc, à partir d'ici, on va tourner dans Apocalypse, chapitre 19, après l'effondrement religieux de la ville, économique, voire de l'ordre social et politique, on va voir maintenant la venue de Christ qui va mettre un terme à la gouvernance de l'Antéchrist, qui va mettre un terme à ce gouvernement-là qui dirige le monde avec une poigne de fer, bien que Christ va le faire lui aussi, mais pour des raisons plus nobles, soyons clairs, on va voir cette fin-là. Tournez dans Apocalypse, chapitre 19, on va commencer par les versets 1 à 6. On va voir au cours des prochaines semaines certaines choses, que la venue de Christ qu'on va voir aujourd'hui, établir son règne, un règne théocratique, une gouvernance théocratique, un règne qui va durer pendant 1000 ans, on appelle ça le millénium, un 1000 ans de paix assurée où les hommes vont vivre un peu de la même façon, c'est-à-dire ils vont avoir mangé, besoin de manger, de boire, ils vont avoir un système, un certain système avec lequel les gens vont vivre. Ça va être littéralement une gouvernance, mais la durée de vie va être prolongée. Il y a des choses que la nature va être restaurée en partie. Et on va voir qu'après le millénium, il va y avoir une dernière révolte. Et ensuite de ça, on va rentrer dans l'éternité d'après le temps. C'est-à-dire, il y avait une éternité avant que Dieu crée le temps, avant que le temps existe. Dieu existe de toute éternité. Dieu a créé le temps, la mesure du temps en deux éternités. Ça ne veut pas dire que l'éternité n'existe pas pendant le temps. Ça veut dire que nous, nous sommes plongés dans le temps, mais tous ceux qui décèdent, tous ceux depuis la création du temps qui sont partis, ne font plus partie du temps, sont entrés dans l'éternité à ce moment-là. Donc, Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 6. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Alléluia, Amen ». Une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre en disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Ici, retenez bien ça. La partie B du verset 6 qui nous dit « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, car le Seigneur, on parle de Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » La destruction de Babylone apparaît comme le dernier acte qui va se jouer sur la scène terrestre avant une stabilité qui va arriver par la venue de Christ, qu'on trouve dans le verset 6. Babylone, qui va avoir usé, voire abusé de la patience du Tout-Puissant, va être mise à terre, va être démantelée. Une nouvelle gouvernance va s'installer. Et c'est pour ça qu'on entend dans sa chute des réjouissances, des alléluia. On peut le voir ici à 4 reprises où on entend alléluia par différents groupes. Et je ne veux pas revenir en détail sur tous les groupes qui sont mentionnés ici parce qu'on a déjà parlé avant. On retrouve ici une foule nombreuse, on retrouve les 24 vieillards, on retrouve les 4 êtres vivants, on retrouve des serviteurs qui vont être sur la terre à ce moment-là qui attendent la venue de Christ parce qu'ils souffrent cruellement sous le règne de l'Antéchrist. Et toutes ces personnes-là, eux, vont se réjouir de la chute de Babylone, vont se réjouir de la chute du système. Ils vont se réjouir que Christ vient installer une nouvelle gouvernance sur la terre. Donc, lorsqu'un ange, si vous vous rappelez bien qu'on a pris la semaine dernière, jette dans la mer une grande pierre qui ressemble à une meule en annonçant que Babylone serait précipitée, comme on avait lu, de la même manière, les myriades d'anges s'étaient rassemblés pour célébrer le triomphe final de Dieu sur la Babylone ou sur la grande prostituée. Cette foule-là qu'on voit ici va s'écrier par deux fois « Alléluia », reprise en écho par les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, qui vont dire aussi « Alléluia », les rachetés de la terre de même, qui vont être désormais, parce que vous n'oubliez pas les rachetés de la terre qui n'auront pas fait partie de l'enlèvement de l'Église, ne feront pas partie de l'épouse de Christ, ça va être, ils vont être sauvés en vertu de la même grâce, mais ils vont avoir manqué l'enlèvement, eux et d'autres, et à ce titre, ne feront pas partie de l'épouse de Christ, mais vont se réjouir de cette gouvernance-là qui s'installe et ils vont se joindre à une autre ordre et non pas à l'ordre de l'Église qui va être devenue l'épouse, mais à l'ordre angélique. Ils vont se joindre à l'ordre angélique pour clamer leur bonheur de voir le règne de Christ s'installer sur la terre. Et sans entrer dans des versets 1 à 6 qu'on a pris, on voit les différentes classes que je vous ai dit, mais le verset 2 nous dit « Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée, car ses jugements sont véritables et justes. » Dieu va venir exercer un jugement, certes, un jugement juste et un jugement véritable. Notre Dieu, par son œuvre sur la croix, s'est acquéri les droits de propriété qu'on avait cédés, c'est-à-dire nos premiers parents, dont nous avons hérité la même nature. Nos premiers parents, Adam et Ève, avaient cédé à notre ennemi les droits de propriété de la terre, les droits de propriété de ce monde. Et Christ, en venant sur la croix, en faisant l'œuvre de la croix, Christ s'est acquéri un peuple. On est devenu fiancé en attendant les épousailles, et on va en parler plus tard. Et un jour, on va devenir l'épouse. Dans nos temps modernes, ça ne veut plus dire grand-chose, et je vais vous en parler à cause de notre façon de vivre. Mais dans ces temps-là, ça avait toute son importance. Et le lecteur contemporain, nous comprenait parfaitement l'importance de la fiançaille et de l'épousaille. Aujourd'hui, les gens se fiancent, c'est un acte, en tout cas dans plusieurs façons de vivre, c'est un acte tout simplement, on fait un petit party, on va dire à tout le monde qu'on se marie, mais parce qu'ils habitent déjà ensemble depuis 2, 3, voire 4, 5 ans, la fiançaille ne veut pas dire grand-chose. Mais dans ces temps-là, il n'en était pas ainsi. Et ici, on voit que la parole de Dieu nous enseigne que Dieu va venir exercer un jugement par le fait même, juste et un jugement véritable sur la grande prostituée, sur la Babylone, sur le système, sur l'Antéchrist, sur le faux prophète. Et on va regarder un peu qu'est-ce qui va leur arriver. Je termine ici avec le verset 6 que je veux reprendre. En ce sens, on va aller dans le verset 7. Car notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Le début de la prise de possession, et je vais vous dire ça, c'est difficile peut-être pour nous à concevoir parce que nous habitons le temps. Nous habitons le temps. Le temps s'écoule, les minutes, les heures. Moi, on me donne environ 1 heure, je tire à 1h15. On a un temps défini, on calcule le temps, on a des choses à faire, mais l'éternité n'est pas ainsi. L'éternité nous est un peu étranger. Quand il m'est arrivé d'accompagner des gens qui allaient verser dans l'éternité, cause généralement d'une maladie, qui savaient que leur temps était compté. Dans les derniers temps que j'accompagnais ces personnes-là, je disais, les choses vont changer. La structure des choses va changer pour toi. Et il va se passer des choses avec lesquelles ça t'est étranger. Et c'est pour ça qu'il y a un peu d'appréhension à la mort pour certaines personnes, pour la plupart des personnes. On sait dans les bras de qui on tombe, comme je disais à un moment donné à quelqu'un, mais on ne sait pas la structure d'où on tombe. La parole de Dieu ne nous en donne pas assez de détails. Ce n'est pas le but de la parole de Dieu. On sait qu'on tombe dans les bras de Jésus. On sait que quand on meurt, on est récupéré par le Seigneur, soyons clairs. On n'est pas flottant dans l'espace, là. On est récupéré par le Seigneur. On est dans la présence aimante de Dieu, rassurante de Dieu. Mais le ciel, puis je ne vous parle pas du ciel bleu avec les nuages, le ciel, dans sa structure éternelle, nous est un peu étranger. Bien que la parole de Dieu nous en donne des éléments, mais ce n'est pas le but de mon intervention. Et quand j'accompagne souvent des gens, dans les derniers temps, on peut voir ces gens-là, et ici je fais attention à ce que je vous dis, là, je ne veux pas que personne dise, le pasteur André est en train de, il s'en vient plus ésotérique que chrétien. Mais il n'est pas rare que des gens, dans les dernières heures de leur vie, ressentent des choses que nous, on ne ressent pas. Voir, j'ai vu des croyants entendre certaines choses. Donc, soyons bien, bien, bien clairs. Quand on va arriver à ces temps-là, pourquoi je vous dis ces choses-là? Parce que nous, on est situés dans un temps défini. Mais le règne de Jésus, le commencement de possession du règne, quand Christ est ressuscité des morts, qui est monté au ciel, cette prise de possession-là avait déjà commencé. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout est accompli. Quand que Christ est mort, Christ a déclaré que tout était accompli, y compris cette prise de possession-là, qui était en marche, mais qui trouve son accomplissement final dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. On en a vu les effets dans nos vies. C'est-à-dire le royaume de Dieu quand on a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Et je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais quand on a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, les choses ont changé pour nous. Souvent, on a eu une autre vision de la vie, une autre vision des éléments de la vie. C'est le royaume de Dieu qui s'installe en nous, mais ce royaume-là de Dieu qui est installé en nous est invisible, soyons clairs. Mais quand Christ lui est monté, la prise de possession qui était pour l'Apocalypse avait déjà commencé. Le temps va commencer à s'égrener, à s'écouler. Mais Christ qui est dans l'éternité n'a pas de temps, soyons clairs. Nous, on voit 100 ans, 200 ans pour dire, et c'est long avant que le Seigneur revienne. Mais, devant Dieu, vous connaissez tous cette expression, un jour c'est comme 1 an, 1 an c'est comme un jour, et c'est souvent pas, on le pense souvent de façon, en tout cas on l'applique souvent mal, mais soyons clairs, ça veut dire principalement que Dieu ne fait pas partie du temps, le temps n'existe pas pour lui. Okay? C'est principalement ça, on y trouve d'autres éléments, mais c'est principalement de cela dont les versets nous parlent, et la prise de possession qu'on trouve au verset 6, en disant, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. C'est un peu comme quand quelqu'un se retrouve devant souvent des tribunaux. On va voir qu'on lui donne une libération conditionnelle, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est-à-dire en attendant son jugement ou sa condamnation. Ben, il peut se promener. Il ne peut pas faire n'importe quoi, mais il peut se promener. Des fois, on va lui mettre un bracelet à la cheville là, pour surveiller ses déplacements. On va lui défendre d'utiliser les réseaux sociaux, tout dépendant le crime duquel il est soupçonné. Mais il va jouir d'une certaine liberté jusqu'à son procès. Et si à son procès, il est condamné, eh bien là, il va se retrouver en prison. Le diable, c'est un peu ça qui se passe dans le temps. Son temps est compté. Mais dans le temps, pour l'instant, il est condamné. Tout est accompli. Mais il jouit d'une certaine liberté jusqu'à Apocalypse qu'on est en train de prendre. Et ensuite de ça, on va regarder ce qui va lui arriver. Dans les versets. Notre Dieu Tout-Puissant entre dans son règne. Tout le processus s'est fait depuis qu'on étudie le livre d'Apocalypse et maintenant, il y a un événement qui va se passer directement sur la terre la venue d'une nouvelle gouvernance, comme je vous ai dit, d'un nouveau gouvernement, la venue du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que le verset 7 d'Apocalypse 19 au verset 9, on nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et ici, je vais vous montrer une mécanique. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On voit ici une annonce qui est faite. Une annonce qui est faite du festin des noces de l'agneau. Et ici, beaucoup y ont vu que ces noces-là vont s'établir à ce moment-là. Mais ici, ce qu'on demande, c'est l'aboutissement, je vous dirais, nécessaire, apostolique. Après de longues fiançailles avec notre époux, l'épouse et l'époux vont être unis lors de l'enlèvement de l'Église. Vont être unis lors de l'enlèvement de l'Église pour qu'elle soit toujours avec lui. La fiancée et le fiancé, qui vont être longtemps séparés, naturellement désirent ardemment se retrouver. C'est ce que je vous disais qui n'est plus vraiment le cas de nos jours. De nos jours, les gens vont dire « oui, je me fiance cet été », mais ils habitent, comme je vous disais, souvent ensemble depuis des années. Mais si je vais prendre mon cas à moi, sans entrer dans des détails, je vais prendre mon cas à moi. Moi et mon épouse, on est mariés. On vit ensemble maintenant depuis 36 ans et quelques poussières. Okay? Soyons clairs, le temps de fiançailles a été long. Et on n'a pas été fiancés longtemps. Ça me semblait long parce que je voulais être avec ma douce. Je voulais partager ma vie avec cette femme-là. On ne vivait pas ensemble. Je ne dormais pas chez elle. Elle ne dormait pas chez moi. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Et même, je dis souvent à la blague, quand je parle à des jeunes couples, qui vont se marier et que je leur donne souvent certains avertissements, dont d'éviter de se retrouver trop souvent seul dans des endroits comme leur appartement privé, parce que la chair étant ce qu'elle est, ils pourraient consommer leur nuit de noces avant leur nuit de noces. Et tout le monde serait déçu, Dieu le premier, et eux suivant cela, soyons clairs. Mais donc, quand je fréquentais mon épouse, et à la blague, comme je dis souvent à des couples, mon épouse vivait en appartement, moi aussi. Comme c'est le cas maintenant dans plusieurs situations, tandis qu'avant, les jeunes gens restaient chez leurs parents jusqu'au mariage. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ça doit être géré différemment. Et vous allez comprendre ce que je veux vous dire quand je disais, moi, ma femme, des fois, on avait des choses à régler pour la noce qui arrivait. Et, j'entrais chez elle pour organiser un peu le mariage qui venait avec elle. Et faisait attention de ne pas déraper. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'achetais beaucoup de popsicles. Et on mangeait beaucoup de popsicles. On se refroidissait les sens. On se comprend bien parce qu'un être humain normalement constitué se retrouve avec sa belle, avec sa douce. Naturellement, la chair va faire son œuvre. Et il n'y a rien de mal à ça. Dans les liens du mariage. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Pourquoi je vous dis ces choses-là? La préparation, je l'ai transposée à un couple naturel. Je le reprends maintenant pour notre union spirituelle avec Christ. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte au retour du Seigneur. J'ai hâte à mon union spirituelle. Parce que là, je vais connaître comme j'ai été connu. Là, je vais voir celui que j'ai adoré en esprit et en vérité face à face. Donc, le mariage humain est un pâle reflet de ce qui va être notre union spirituelle avec notre époux en tant qu'entité, en tant qu'Église, là, je parle. Je ne parle pas individuellement. En tant qu'Église, on est l'épouse, pour l'instant la fiancée. Un jour, notre époux va venir nous chercher. Et c'est ici la description qui en est faite des versets 7 à 9. Donc, après de longues, moi je trouve, fiançailles, de longues préparations, l'époux va venir chercher la fiancée. Ils vont se retrouver. L'Église devrait soupirer à sa rencontre avec Christ. La rencontre, qui somme toute, est imminente si on calcule dans le temps qu'on vit. Et je ne vous parle pas là, ici d'imminence demain matin. Je suis en train de parler du temps écoulé, c'est tout. Soyons clairs, les fiançailles sont le préalable, si vous voulez, à la veille de l'enlèvement de l'Église qui va se produire à la grande tribulation. Après ce court laps de temps où on va être enlevé, et vous allez voir que ce n'est pas étrange au mariage de l'Orient puis du Moyen-Orient là, dans ces temps-là. Je vais vous donner un petit peu d'histoire, pas trop, un petit peu. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Soyons clairs. Donc, on va retrouver cette image-là d'une fiançaille, de l'époux qui vient chercher son épouse. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. On se rencontre à l'église. Quand j'ai célébré des mariages, c'est toujours de la même façon que ça se passe. Et on le sait, généralement, monsieur arrive avant, parce que personne ne veut voir la robe de mariée avant le temps. Donc, monsieur arrive avant et madame, généralement, arrive la dernière, après que tout le monde soit arrivé. Le pasteur se tient en avant avec monsieur, et là, la cérémonie peut commencer. Mais dans ces temps-là, ce n'est pas comme ça que ça se déroulait, un mariage. Ce n'est pas de cette façon-là que ça se déroulait. Et donc, après ce court laps de temps de l'enlèvement de l'Église, où l'Église est enlevée, viennent les noces de l'agneau, qui se font juste avant l'avènement, ou pendant le 7 ans, de l'avènement du Seigneur, où le Seigneur va venir ici-bas. On est enlevé, on est la fiancée, on monte dans la présence de Dieu. C'est les épousailles. Et les épousailles, suite à ça, il y avait un repas. Donc, selon la coutume orientale, les noces, et c'est ma petite partie historique, pour que vous ayez une bonne vision de la chose, dans les coutumes orientales, les noces comportaient 3 actes. Tout d'abord, et ça existe encore dans certains endroits, peut-être pas par les parents, il y en a, c'est par le plus proche ami ou le frère qui veut marier, mais dans ce temps-là, c'est les parents qui s'entendaient ensemble, voire il y avait des mariages arrangés aussi, et signaient des papiers, signaient un acte de promesse de mariage. On va appeler ça comme ça, c'était plus complexe, là. Il y avait des choses qui s'échangeaient, c'était plus complexe, mais on va faire ça simplement. Donc, ils s'échangeaient une promesse officielle qu'on appelle un contrat de mariage. Dans certains types de mariage, ça se faisait même lorsque les enfants étaient tout jeunes. 2 familles qui s'entendaient bien, un avait un garçon, l'autre avait une fille, Et ils décidaient d'unir ces deux enfants-là. Et des fois, ça se faisait, les enfants étaient tout jeunes et ils élevaient les enfants pour que les enfants, un jour, forment un couple. Puis, arrivait, après ce moment-là, le temps de fiançailles ou l'engagement personnel des deux amoureux se faisait de façon plus concrète. Et suivant les fiançailles, l'époux, celui qui allait devenir l'époux, demandait à ses parents, et ça se faisait ça aussi en deux petits actes, là, okay, d'aller chercher son épouse pour la ramener dans sa maison. Et quand il la ramenait dans sa maison, c'est là que le festin se faisait. C'est là que le repas de noces se faisait. Et je vous passe des détails. Il y a des détails qui seraient peut-être gênants pour vous et moi, mais qu'on peut vérifier même dans la Bible. Des détails que nous, on dirait, bien non, on ne ferait pas ça, on ferait pas ça de cette façon-là, mais c'était tout à fait usuel dans ce temps-là de le faire de cette façon-là. Donc, d'abord, un contrat qui liait fiançailles. Ce contrat-là a été fait par Christ. C'est la nouvelle alliance en son sang. Ce contrat-là a été fait avec tous ceux qui adhèrent au contrat. Christ est venu nous fiancer. Christ a signé le contrat avec son propre sang pour nous racheter, pour donner, on va dire, la dot. Et suivant ça, Christ va vouloir avoir son épouse, l'Église, avec lui. Et pour ça, il vient la chercher pour l'amener dans sa maison. Parce que c'est comme cela que ça se déroulait. Donc, le jeune homme qui désirait avoir son épouse après la période de fiançailles, qui pouvait durer de, tout dépendant si le mariage était arrangé ou pas, de plusieurs années, voire à quelques années, 2 ans, 2 ans et demi, et les parents avaient le choix d'amener, tout dépendant de la culture, il y avait des sous-cultures, d'amener l'épouse. Mais au Moyen-Orient, à bien des endroits, voici comment ça se faisait. La mariée était avisée que son époux venait la prendre, l'enlever de chez ses parents. C'est le terme qui est employé. C'est ça qu'on parle d'enlèvement de l'Église. Venait l'enlever de chez ses parents. Elle habitait chez ses parents. Elle se préparait à l'enlèvement. Je vous donne une image là, pour que ça soit clair. L'époux partait de chez lui pour se rendre chercher son épouse. Si l'épouse s'était coutumier, à moins que le mariage n'était pas désiré, mais c'était coutumier, si l'épouse était ardente pour son époux, elle sortait de sa maison elle aussi et elle allait le rencontrer en chemin, près de sa propre maison. De là vient la parabole des vierges sages et des vierges folles, et je vous passe tous les détails. Et c'est pour ça que je vous avais allé à la rencontre de l'époux, que je vous avais expliqué lors d'une intervention antérieurement que j'ai eue avec vous, où je vous avais expliqué un peu comment ça se passait. Et je vous avais dit que des choses qui sont importantes pour nous. Je vous avais expliqué que quand l'époux partait, il était accompagné. Il y avait des gens avec des lanternes. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les rues sont éclairées, là. Les repas se faisaient le soir. Ne se faisaient pas à 5 heures l'après-midi. Ce n'était pas un dîner de mariage ou un souper de mariage à 5 heures pour que la cérémonie soit terminée. Non, non, non. Des fois, ça durait toute la nuit, ces choses-là. Donc, soyons clairs. L'époux sortait. L'épouse était au courant parce que les jeunes filles couraient en avant de l'époux, allaient avertir en disant « Ton bien-aimé s'en vient. » Si elle était contente, comme ça aurait dû, elle disait à ses parents « Laissez-moi partir. » Et elle partait à la rencontre, suivie des parents, suivie de toutes aussi les gens qui étaient invités et toute jeune fille vierge dans le village qui avait une lanterne pour éclairer le chemin, pouvait entrer sans invitation. Pouvait entrer si elle était prête, si elle avait une robe adéquate, si elle avait une lampe allumée, si elle avait une réserve d'huile, même si elle ne faisait pas partie de la famille directe, elle pouvait se joindre à ce qu'on appelait le cortège nuptial. Et elle pouvait entrer dans la maison de l'époux, assister à la fin des épousailles, c'est-à-dire les dernières choses qui s'échangeaient. Et l'épouse, le repas se prenait dans la maison de l'époux, avec l'épouse. Et maintenant, l'épouse ne faisait plus partie, et je sais que vous allez trouver ça un peu lourd, ne faisait plus partie de la famille de papa et maman, faisait partie de la famille de l'époux. Elle devenait partie prenante de cette nouvelle famille-là. Donc, le contrat de mariage des fiançailles, c'est votre nouvelle alliance. L'épouse a disposé du temps nécessaire pour se préparer aux noces. Donc, qu'il est naturel que la rencontre de Christ avec son Église soit marquée, tout naturellement, on le fait encore de nos jours, par un festin. Le festin des noces de l'agneau. Ce festin-là qui va intervenir lors de l'enlèvement. Et vous allez peut-être trouver un peu drôle ce que je vais vous dire là. Et on fait des voyages de noces. Et il va y avoir un voyage de noces. C'est un peu à la blague que je vous le dis. Ce n'est pas littéralement un voyage de noces. Il va y avoir un voyage de noces, c'est-à-dire on va revenir sur la terre. Un voyage de noces de 1000 ans, le millénium, 1000 ans de paix sur la terre. Que le monde y croit ou non, ça ne changera rien. Christ va venir instaurer son royaume pour 1000 ans. Donc, fiançailles, je vous réexplique. C'est pour ça qu'on a pris les versets qu'on vient de prendre là, chapitre 19, des versets 7 à 9, qui dit « Réjouissez-vous, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et on revient, c'est le voyage de noces. Je vous le dis un peu à la blague, qui va durer 1000 ans. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Là, on voit le retour de Christ qui s'amorce, qui vient s'installer. Jean voit la chose. Et dans Apocalypse 19, 10, « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc, Jean, étant subjugué par ce qu'il voit, tombe sur ses genoux, veut adorer l'ange. Et l'ange dit, garde-toi de le faire. Faisons bien attention à ce que nous adorons. Prêtons bien attention à ce que nous adorons, à ce que nous servons. Paul va parler à un certain endroit que des gens ont un peu font le culte des anges, qui ne doit pas être fait. Il y a des chrétiens que j'appelle qui ont une foi superstitieuse et qui font des choses superstitieuses en disant « telle affaire est écrite dans la parole, j'applique ça, mais Dieu ne te l'a pas donné à toi. » Et ce n'est pas le but de mon intervention, mais faites attention à ce que votre adoration, à ce que votre foi soit bien ciblée sur Christ. Romains 1 nous dit que les gens de plusieurs générations, dont la nôtre, adore la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous allez trouver ça dans Romains 1. Et ça les place dans toutes sortes de situations de déviance. Soyons clairs. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce verset-là devrait nous parler. Ici, je me permets d'arrêter un peu pour vous en parler. L'ange lui dit, un ange? Écoutez, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas le frère André, là. De l'oratoire Saint-Joseph, pas le frère André de Rosemont. C'est pas Marie, ça. C'est un ange. C'est pas un humain, c'est un ange. Jean, subjugué, tombe sur ses genoux et l'ange lui dit, garde-toi de faire ça. Je suis quoi? Ton compagnon de service. On n'adule pas des hommes. On peut avoir du respect pour des hommes. On peut avoir, comme la Bible dit, de la déférence. Même la Bible nous ordonne d'avoir de la déférence pour des hommes de Dieu qui servent en toute droiture. Elle nous ordonne d'avoir de la déférence parce que c'est bien plus facile de critiquer qu'à avoir de la déférence. C'est plus naturel chez l'homme de se dire, oh, c'est un humain comme les autres. Puis il y a des défauts, des qualités, puis c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais la parole de Dieu ordonne d'avoir de la déférence. Il faut qu'on connaisse notre place. Il faut qu'on ait de la déférence. Donc, l'apôtre Jean tombe à ses pieds pour l'adorer. L'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis un compagnon de service. Donc, ayons une foi bien ciblée sur Dieu, sur Jésus. Exempt de superstition. Exempt. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de prier, ils voient un cadre un peu bouger sur le mur. C'est le Saint-Esprit. Ah non, on t'a laissé la fenêtre ouverte. C'est venteux dehors. C'est le vent. Est-ce que vous comprenez? C'est le vent. C'est pas le Saint-Esprit. Soyons clairs. Dieu est un économe. Je l'ai enseigné dernièrement à un petit groupe. Dieu est un économe. Dieu ne gaspille pas. Hmm? Quand les apôtres, entre autres, vont pour nourrir la multitude, Jésus fait la multiplication des pains et des poissons. Puis après ça, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Jésus a dit, laissez ça là, les petits oiseaux vont y manger. Je peux en faire 5000 autres demain. J'ai une fournée pour demain. J'ai une pêche pour demain. Dieu dit que rien ne se perde. Notre Dieu, c'est un économe. Donc, les gens, des fois, à tort, vont attribuer à Dieu ce qui n'est pas à Dieu. Ce qui est dû tout simplement à un phénomène naturel, ce qui est, voire de d'autres acabites, soyons clairs. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Quelqu'un me citait une fois, « Oui, mais il y a un ange qui descendait, puis il ne faisait rien de spécial, il agitait de l'eau. » Oui, c'était pour indiquer quelque chose. Il agitait de l'eau, le premier qui descendait dans l'eau. Comment c'est ça que ces gens-là étaient au courant? Posez-vous la question. Je n'y répondrai pas ce soir. Comment c'est ça que les gens étaient au courant? Tous ceux qui se tenaient dans le pourtour de la piscine savaient qu'un ange descendait une fois de temps en temps, agitait l'eau. En fait, l'eau n'avait rien de spécial. L'eau bénite, ça n'existe pas. Là. Toute l'eau de la terre est bénite. Là. Dieu le bénit, mais c'est là que ça s'est mis à être fécond. Là. Soyons clairs. Donc, pas d'eau bénite, pas d'eau spéciale. OK? Soyons clairs. Donc, quand l'ange venait agiter l'eau, c'était juste un signe. C'était un signe pour ceux qui voyaient, parce qu'ils ne voyaient pas l'ange, pour ceux qui voyaient l'eau agitée, c'était un signe qu'il y a une guérison qui s'en venait pour quelqu'un. Mais si ton cadre bouge, puis il ne se passe à rien de spécial, c'est parce qu'il y a du vent dans la pièce. Soyons clairs. Ou s'il se pratique d'autres choses, bien, il y a autre chose. Mais ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est un économe. Dieu ne fait rien pour rien. Le diable cherche à nous impressionner, à nous faire peur. Dieu ne cherche pas ça. Dieu, vous lisez la Bible, Dieu n'a jamais cherché à vous prouver qu'il était Dieu. Dieu ne nous explique pas dans Genèse. Oui, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai appelé les atomes à former un univers. Il ne l'explique pas, il nous dit qu'il l'a fait. Et c'est tout. Parce que Dieu n'a rien prouvé. Dieu n'a rien à nous prouver. Soyons clairs. Donc, j'en reviens à mon texte. Jean fait preuve d'un réflexe qui est tout à fait humain. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé. L'apôtre Jean qui avait marché avec Jésus, l'apôtre Jean qui a eu toutes les visions qu'on vient de parler dans l'Apocalypse, tombe à genoux, prêt à adorer. Et je vous le répète, faites attention. Faites attention à qui vous adorez, à qu'est-ce que vous servez et à qu'est-ce que vous croyez. Assurez-vous que le modèle est biblique. Donc, d'autres personnes ont déjà fait ça. On fait des choses fort semblables à cela. Si vous tournez dans l'évangile de Marc, l'apôtre Pierre, l'évangile de Marc, chapitre 9, vous le trouvez dans d'autres évangiles. J'ai pris celui-là, c'est le plus court récit. Et je ne voulais tout de même pas m'étendre trop là-dessus. À partir du verset 2 du chapitre 9 de Marc, nous dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques. Il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne où il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, pourquoi? L'effroi les ayant saisis. L'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Sur le mont de la Transfiguration, il s'est passé quelque chose de fort. Ils ont été décontenancés. Pierre a dit, passez-moi l'expression, une ânerie. Pierre a dit, hey, on est bien ici. Une belle place. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Élie, puis on fait un camp ici. On reste ici. On reste ici parce qu'on est bien ici. Et sauver les âmes en bas, il fallait que ce soit fait en bas de la montagne. Donc, saisi d'effroi, il dit quelque chose qui avait pas raison d'être. Et ici, je soulève un petit coin d'une autre chose que j'ai déjà parlé. Soit dit en passant, personne n'a présenté à Pierre, Moïse et Élie. Pierre n'avait pas vu de photos de Moïse puis d'Élie. Parce que les photos n'existaient pas. Pierre n'avait pas vu de gravure de Moïse puis Élie. Puis je pourrais vous expliquer un peu pourquoi que je vous dis qu'il n'y a pas vu de gravure, parce qu'il y avait des choses claires qui étaient faites dans ces temps-là. Donc, Pierre avait entendu parler de Moïse et Élie. Et là, il voit l'apparition de Moïse et Élie avec Jésus, qui sont en train de discuter, vous le trouvez dans un autre évangile, du départ que Jésus allait effectuer à Jérusalem, c'est-à-dire sa mort sur la croix, qui est appelée ici un départ. Ça devrait vous parler aussi. Dieu ne voit pas la vie et la mort comme nous. Et donc, ceux qui sont dans l'éternité ne le voient pas non plus. Tous ceux qui nous ont précédés dans l'éternité ne voient plus la vie et la mort comme nous, on la voit. Donc, la parole de Dieu nous dit, il discute avec Jésus du départ qu'elle a effectué à Jérusalem. Qui a présenté Pierre à personne? Mais dans la présence de Dieu, dans cette présence-là, un petit coin d'éternité qui s'était installé là, Pierre a obtenu pendant un court laps de temps une connaissance infuse. Il connaissait ceux qu'il ne connaissait pas. Et c'est un peu ça que quand je dis aux gens, les amis que j'arrive devant le Seigneur, j'ai plein de questions à y poser. Puis il va se faire dribbler de questions. Puis je vais lui demander pourquoi c'est. Puis pourquoi ça, tu ne comprends pas. Tu ne poseras aucune question parce que tu vas savoir. Tu ne poseras pas de questions. On en a ici une image. Ce n'est pas une figure de style. C'est réellement arrivé. Pas eu de présentation. Pierre, il sait exactement qui sont ces deux hommes-là. Parce qu'il est dans la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans cette gloire-là, la connaissance change. La connaissance devient plus complète. Et on voit l'apôtre Pierre qui va dire, ben, on dresse 3 tentes. Pourquoi Moïse et Élie? Je vous le dis rapidement, parce que Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Et la loi et les prophètes s'entendaient pour l'œuvre que Jésus, l'homme, Jésus est entièrement Dieu aussi, l'homme allait accomplir à Jérusalem, son départ, comme il est mentionné. D'accord? Donc, même chose ici qu'on trouve, l'apôtre Pierre, ne sachant que faire, pas juste l'apôtre Jean qui l'a fait dans l'Apocalypse, Pierre va faire quelque chose. La parole de Dieu a dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Puis l'apôtre Jean, ben, naturellement, étant conscient de sa nature humaine, lui aussi a tombé à genoux devant l'ange. Vous trouvez aussi à d'autres endroits différents où des hommes sont repris à ce niveau-là. D'accord? Apocalypse chapitre 19. J'ai encore un peu de temps. Je vais essayer d'utiliser au moins encore un dernier 5 minutes. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert maintenant. Et voici, on nous annonce la venue, la préparation de la venue se fait, j'en vois la venue s'amorce. Et ici, regarde, eh bien, le ciel s'ouvre. Le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc. Pur. Donc, ça ne peut pas être n'importe qui. De sa bouche, une figure de style, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il faudra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son nom et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et seigneur des seigneurs. On ne peut pas avoir de tout sur l'identité de celui qui monte le cheval et qui vient. Roi des rois, seigneur des seigneurs. On trouve ici un nom qui lui appartient, qui est caché, et deux noms révélés. Un qui est la parole de Dieu et l'autre qui est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Quand le Seigneur était sur la terre, quand le Seigneur est venu sur la terre en tant qu'homme, et souvent je fais la distinction entre Jésus, l'homme qui était 100% Dieu et Jésus, Dieu, pas une partie de Dieu, pas Dieu le Fils, soyons clairs, mais Dieu incarné, qui était aussi 100% Dieu. Et on voit dans différents endroits des différences. Quand je dis aux gens, exemple, j'ai déjà enseigné dans une église, pas la note. Un pasteur m'avait donné plus de temps son église était disposée. Tout le monde avait mangé sur place. On avait passé toute la journée du dimanche jusqu'au dimanche soir, parce que là, c'est un enseignement qui est long. On faisait des pauses. Puis il m'avait dit, mon frère, je crois au Dieu unique, mais il dit, j'ai de la misère à l'expliquer aux brebis. Il m'avait demandé d'aller. Et j'avais pris un repas avec lui, je me rappelle au restaurant, j'avais dit, ce que tu demandes là, demande plusieurs sessions. Si tu veux que je le fasse en une, ça va être ébauché. Puis il m'a dit, ben, tu pourrais-tu rester toute la journée? Tu pourras en faire plus. Et je lui donnais à eux, ce que je vous donne à vous, une certaine différence. Je dis, il faut toujours regarder comment Jésus agissait, ce qu'il est en train d'agir en tant qu'homme ou en tant que Dieu. Exemple, quand Jésus marche au bord de la mer, il agit en tant qu'homme. Quand Jésus marche sur la mer, il agit en tant que Dieu, dans un corps d'homme, dans un corps humain, mais il agit en tant que Dieu. Quand Jésus s'assoit sur le bord du puits et qu'il est fatigué du voyage dans Jean et qu'il parle avec la femme samaritaine, c'est l'homme qui est fatigué. L'homme est fatigué du voyage. C'est l'homme qui dit à la femme, j'ai soif, donne-moi à boire. Oui, il est Dieu en même temps, mais c'est ça, la partie de son humanité qui s'adresse à la femme. C'est le besoin humain qui s'adresse à la femme qui dit, donne-moi à boire. Vous connaissez la suite, là? Soyons clairs. Croyez-vous que Dieu est fatigué? La parole de Dieu nous dit que Dieu ne se fatigue pas. Jésus, à un moment donné, dort sur le coussin dans une barque, puis il y a une tempête. Puis il a dû être très fatigué, là, parce que le bateau, il bouge, puis lui, il dort, il ne se réveille pas. Des grosses journées. Donc, ils dormaient. Puis, ils ont dû aller le réveiller. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne dort pas. Elle nous dit, ton Dieu, dans les psaumes, ça nous dit dans le Deutéronome aussi, ne sommeille point. Le proverbe dit, Dieu ne dort pas. Mais Jésus, dans son humanité, bien qu'il était 100% Dieu, avait besoin de récupérer, avait besoin de sommeil. Et son corps était affaibli, besoin de manger, était fatigué, besoin de se reposer. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Quand on parle du ciel qui s'ouvre, et j'en reviens à ce que je vous disais, j'en reviens à ce que je vous ai lu dans le chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru. À des occasions spécifiques, le ciel s'ouvre. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, au baptême de Jésus, la parole de Dieu nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dans Actes, parce que là, il faut que j'aille un peu plus rapidement, chapitre 7, verset 56. Un homme de chair, de sang, qui s'appelait Étienne, à la veille de sa mort. Et je vous fais une référence directe à ce que je vous ai dit un peu plus tôt, que j'ai accompagné certaines personnes qui m'ont dit certaines choses. J'ai accompagné certaines personnes qui arrivaient à des moments extrêmes de leur vie. Et il y a une grande différence entre un enfant de Dieu qui fait son départ et un autre qui fait son départ. Il y a une bonne différence. Sans nommer de nom, parce que beaucoup de personnes la connaissent dans l'Église. Cette dame-là faisait partie de l'Église de Longueuil. Son pasteur était là, son mari était là, d'autres étaient là. Puis quelques étaient à leur entrée dans les soins palliatifs, juste, tout simplement quelques heures avant de décéder, pas des jours avant. Le dimanche de vin était même à notre église, là. Elle était rendue à l'extrémité. Et pourtant, elle nous a fait mention d'une chose sur toute la. À la fin, fin, fin. Elle entendait quelque chose que eux n'entendaient pas. Soyons clairs. Parce que, et ici, je fais attention, je ne veux pas que personne dise, Pasteur André, ça vient ésotérique, on ferme l'Internet, soyons clairs, je vais vous montrer un homme. C'est un homme. Dans Actes chapitre 7, verset 56, Étienne, le premier martyr de l'Église, qui est mis à mort par des gens qui disent qu'il a blasphémé, ainsi, il le lapide. Lapider, c'est tuer à coups de pierre. Il le lapide. Et dans le verset 56 de Actes des Apôtres 7, il va déclarer quelque chose. Il va dire, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Il n'est pas mort encore. Jésus a vu les cieux ouverts, l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Là, je prends un homme pour pas. Vous me dites, c'est juste Jésus, un homme. Il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, ce n'est pas la droite, là, je suis à ma droite, c'est la puissance. Il voyait Dieu dans sa puissance, dans la plénitude de sa force, dans sa puissance. Puis ensuite de ça, la parole de Dieu dit qu'il s'est endormi ou que son corps est mort. Mais lui, il passait hors du temps, soyons clairs. Dans l'une de ses premières visions, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il voit aussi dans le ciel? Dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc, rien d'étonnant à ce qu'on trouve cela lorsque la venue de Christ va se faire physiquement, littéralement, et que les hommes vont le voir. Littéralement. Lors du retour de Christ pour son Église, à l'enlèvement de l'Église. La vision que Jean a, et je regardais, voici, il y avait une porte ouverte dans le ciel, et la première fois que j'avais entendu, le verset 1 du chapitre 4 d'Apocalypse, comme le son d'une trompette, trompette, c'est pas là, c'est pas anodin ce qu'il dit ici, et qui me parlait, me dit, monte ici. Donc, une des constantes, le ciel s'ouvre et l'Église est enlevée. On a vu un homme à l'extrémité de sa vie, le ciel s'ouvre, et il voit ce que les autres ne voient pas. Et ne versons pas dans l'ésotérisme. Je vous ai donné un verset. N'allons pas plus loin que la Bible. J'ai toujours de la crainte quand je partage un peu ces choses-là. Que les gens observent toutes sortes de phénomènes. Le trois quarts des phénomènes que vous observez sont naturels, soyons clairs. Oui, je vous le dis. Soyons bien, bien clairs, là. Les gens qui font de l'ésotérisme se sont emparés d'un phénomène tout à fait naturel qui s'appelle la mort. Parce que notre Dieu, quand on meurt, de façon biologique, c'est un processus. De façon spirituelle, c'est aussi un processus. Il y a un certain processus qui nous est dit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas extrêmement de versets qui nous disent, mais c'est un processus. C'est un processus que la science ne peut observer parce que cette partie-là, elle est spirituelle. La science peut observer le processus naturel de la mort. Je ne sais pas à qui ça sert, là, mais je suis certain que je ne suis pas en train de dire ça pour rien. Le processus naturel de la mort, qui est biologique, qu'on nous dit, avec la science aujourd'hui, qu'on a repoussé un peu les limites de la compréhension de ce processus-là. Parce que si on va au Moyen-Âge, hein, on mettait un miroir devant le visage de la personne, s'il n'y avait pas de buée, bon, on disait que la personne est morte. On l'enterrait. On enterrait plein de personnes qui étaient encore vivantes comme ça. Okay? Après ça, ben, on se mettait l'oreille sur la poitrine en espérant que le médecin qui nous examine ne soit pas trop, trop sourd, qu'il entende encore notre cœur battre, qu'on a juste perdu connaissance, sinon on se fait enterrer vivant aussi. Okay? Après ça, on a affiné avec le stéthoscope et ça. Aujourd'hui, on constate la mort de façon cérébrale. Quand mon fils est décédé dans un accident, ils ne m'ont pas dit son cœur a arrêté de battre. Il faisait battre son cœur. Ils m'ont dit son tronc cérébral est cassé. Il n'y a plus d'activité à ce niveau. C'est terminé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est de cette façon qu'on détermine si quelqu'un est mort. On va même plus loin. On y va avec une langue spécifique, la dure-mère. Puis en tout cas, ça s'éparpille encore plus loin. Puis ils disent que la dernière fonction qui cesse, même quand plus rien bouge, c'est l'ouïe. C'est-à-dire qu'une personne qui vient de décéder, elle entend encore. Soyons clairs. Donc, ne tombons pas, je le répète, dans l'ésotérisme. Si ton corps bouge, c'est peut-être que tu as laissé ta fenêtre ouverte et que c'est venteux dehors. Il peut se passer des phénomènes tout à fait naturels. Il peut se passer des... Donc, n'entrons pas où la parole de Dieu ne nous envoie pas. Mais par contre, ne soyons pas incrédules. Mourir est un processus, autant au niveau biologique qu'au niveau spirituel. Je ne vous dis pas que ça s'étend sur 3-4 jours. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il y a un moment d'adaptation que Dieu donne au niveau spirituel. La personne s'y fait sa nouvelle condition. On va dire ça comme ça pour la forme. OK? Et donc, ce moment d'adaptation-là, ben, on ne sait pas. On ne s'en cachera pas. On n'ira pas plus loin, mais ce n'est pas de la faute de Dieu ou de la parole de Dieu si les ésotériques se sont emparés du phénomène et l'ont amené dans une culture, voire, et je vais le dire comme tel, démoniaque, en nous disant que c'est l'esprit de ton grand-père qui revient parce qu'il n'est jamais parti ou quelque chose de même. Soyons clairs, ce n'est pas ton grand-père. L'entité que tu ressens, qui t'apparaît, qui te parle, connaît la vie de ton grand-père, c'est parce que les démons sont âgés. Soyons clairs, Donc, il nous observe depuis longtemps. Fermez la parenthèse, soyons clairs. Donc, les cieux ouverts, Christ, et ça servira à qui ça servira, et Christ venant du ciel, même si ça peut vous paraître impossible, incongru que les gens le voient, la parole de Dieu nous dit que ça s'est déjà produit. Donc, ici, le ciel s'ouvre encore, mais entièrement, parce que Christ va apparaître physiquement, il va revenir sur la terre pour donner une nouvelle pulsion à cette terre, un nouveau renouvellement à cette terre et aux habitants de cette terre qui vont encore habiter cette terre pendant le millénium. Parce que c'est ce qui s'en vient installer, c'est le voyage de noces, rappelez-vous, je vous ai dit à la blague. Et cette chose-là, il va y avoir des gouvernances de distribuer. Donc, la semaine prochaine, on va regarder la description maintenant qui est faite de Christ lors de son avènement et qui l'accompagne. On va regarder ça lundi prochain, Dieu voulant, description du vainqueur des nations, description du vainqueur du système, du vainqueur de l'Antéchrist, du vainqueur du faux prophète et de la bête et de Satan. Et on va voir leur sort dans la semaine qui vient. Et on va regarder en même temps pourquoi les trois noms, pourquoi les trois noms, un nom secret plus deux noms révélés, on va regarder un peu ces choses-là. Les noms aujourd'hui qui revêtent plus vraiment beaucoup d'importance en revêtaient beaucoup dans ces temps-là, donnaient souvent le caractère ou la mission que Dieu attribuait à quelqu'un. Et on va regarder cela à partir de la semaine prochaine. Je vous ai déjà retenu 10 minutes de plus. Je m'en excuserai bien. Je ne le ferai pas parce que je crois que l'intervention était justifiable et justifiée et nécessaire. Donc, on incline la tête, on prie et on reprend notre étude la semaine prochaine. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, ô Dieu. Bien que la compréhension de ta parole que nous avons soit fractionnée, c'est fractionné, Seigneur, c'est fractionnel, ô Dieu. On comprend en partie, comme tu dis dans ta parole, on prophétise en partie. Mais ce qu'on peut comprendre, Seigneur, c'est une grâce. Ce qu'on peut regarder, c'est littéralement une fenêtre ouverte sur le ciel. Au sens, Seigneur, figuré, oui, pas littéral, littéral. Au sens figuré, Seigneur, c'est-à-dire, on ne voit pas avec nos yeux, mais on voit avec les yeux de la foi ce que tu vas venir installer sur cette terre. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et pour nous, et pour les habitants de ce monde, et pour la terre elle-même qui souffre les douleurs de l'enfantement. Comme tu nous dis dans ta parole, que la terre soupire après la révélation des enfants de Dieu, parce qu'elle aussi a été soumise à la vanité des hommes. On peut le voir par les changements climatiques et autres aux yeux. Donc, Seigneur, merci, Seigneur, de nous donner cette petite vision du cœur concernant, Seigneur, ces choses à venir. Je te remets ton peuple dans tes mains, Seigneur, tout simplement, te demandant, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun d'eux. Et la semaine prochaine, Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'aimerais les amener dans les pourtours, Seigneur, de des choses peut-être qu'ils n'ont jamais vues de cette façon-là. Donc, Seigneur, prépare ton peuple. Prépare ton peuple, Seigneur, à ta parole. Je remets, Seigneur, ton peuple entre tes mains, tout simplement. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Content d'avoir partagé ce petit temps avec vous. Et la semaine prochaine, on va approfondir un peu sur la venue de notre Dieu qui va venir régner littéralement sur ce monde. Soyez bénis.